Il est 6h30 à Paris comme à Goma. Merci d'écouter RFI 4h30 en temps universel. La seconde édition d'Afrique Matin avec vous, Sébastien Duhamel, bonjour.
Bonjour Gaëtan, bonjour à toutes et à tous.
Mais le journal d'abord qui débutera avec cette réponse de Joseph Kabila.
À peine 24 heures après que le Sénat a levé son immunité parlementaire à Kinshasa, actuellement à l'étranger, l'ex-chef de l'État annonce dans une vidéo sur Internet qu'il se rendra à Goma dans les prochains jours. La dictature doit prendre fin, affirme-t-il. La RDC et ce drame à Bounia, en Ituri, un immeuble en construction s'est effondré jeudi, prenant au piège de nombreuses personnes sous ces décombres. Au moins 2 morts déjà constatées par les autorités locales. Libre à son tour, enlevé aux côtés du défenseur kényan des droits de l'homme Boniface Mwangi lundi en Tanzanie, l'avocate ougandaise Agather Atuhaire a été aussi retrouvée libre selon sa famille. Lui s'est rendu aux autorités américaines, le Camerounais Eric Tano Tato, visé par la justice américaine pour son soutien aux séparatistes anglophones. Une mission scientifique pour lutter contre la pollution plastique des mers et des océans. Une équipe de chercheurs vient de prendre la relève à bord de l'Odyssée Plastique, un navire, et nous serons avec eux. Également notre programme, l'avenir du cinéma africain. Nous irons à Cannes pour notre reportage du jour, au pavillon Afrique, plus précisément avant la cérémonie de clôture qui est attendue ce soir. Notre invité, à ne pas manquer également, la sud-africaine Bajabulile Swazi Tshabalala. Elle est candidate pour la présidence de la Banque africaine de développement. Voilà pour le programme, vous êtes tous les bienvenus. Des décisions arbitraires, une falsification de l'histoire et un recul spectaculaire de la démocratie. Les mots et la sortie très remarquée de l'ex-président de RDC, Joseph Kabila. Discours de quelques 45 minutes sur Internet au lendemain de la levée de son immunité parlementaire par le Sénat congolais, alors que la justice militaire souhaite le poursuivre pour complicité avec l'AFC M23. Joseph Kabila annonce qu'il se rendra dans les prochains jours à Goma, la capitale du Nord Kivu, justement contrôlée depuis janvier par les hommes de l'AFC M23 soutenus par le Rwanda. Pauline Azidi a écouté cette allocution pour nous.
6 ans qu'il ne s'était pas directement adressé aux Congolais. 6 ans de prise de parole au compte-goutte au travers de quelques interviews, de micros tendus et de paroles rapportées par ses proches. Joseph Kabila dit briser ce long silence parce que l'enjeu est de taille, non pas pour ma famille, encore moins pour ma modeste personne, mais plutôt pour la nation congolaise. Fin de citation. Un long discours où il dresse un bilan sans concession de la gouvernance de son successeur, sans pour autant le nommer, Félix Tshisekedi. Il évoque un pays gravement malade, devenu un espace de non-droit, un État failli, divisé, désintégré, au bord de l'implosion. La dictature doit prendre fin, estime l'ancien président, et d'avancer 12 points clés, parmi lesquels arrêter la guerre, neutraliser tous les groupes armés, rétablir les libertés fondamentales, réconcilier les Congolais. Chacun doit jouer sa partition, je m'engage à jouer la mienne, conclut-il, sans donner plus de détails, laissant souffler le chaud et le froid. Il se dit à la fois militaire prête au sacrifice suprême, tout en affirmant son engagement pour la démocratie, la cohésion nationale, la paix et la stabilité. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
La RDC, endeuillée par ailleurs par ce drame à Bounia, le chef-lieu de l'Ituri dans l'Est, où un immeuble de 4 étages en construction s'est effondré jeudi, piégeant sous ses décombres plusieurs dizaines de personnes. Au moins 2 morts, 16 personnes secourues dès jeudi tout de même, selon le maire de la ville. Les habitants du quartier se sont rapidement mobilisés, relayés ensuite par les secours. Sur place, reportage de Coralie Pierret.
Daniel était parmi les premiers sur place, avec d'autres jeunes du quartier Bakoko. Ils ont déblayé à la main les gravats, à la recherche de survivants.
Nous avons entendu du bruit, les gens s'exclamaient. Nous avons récupéré quelques survivants, nous avons pu les amener à l'hôpital.
Ils ont depuis laissé la place aux pelleteuses de la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC, et à celles mobilisées par les autorités de la ville. Mais plus les heures passent, plus les espoirs s'amenuisent, explique le chef de quartier Gisindi Liabo, encore il y a peu, en contact avec les personnes coincées.
On a communiqué avec eux par téléphone, oui, par message aussi.
Et aujourd'hui, ils ne parlent plus.
Aujourd'hui, ils ne parlent plus. C'est là que nous sommes en train de désespérer. Nous essayons de tout faire pour seulement évacuer leur corps.
La cause exacte de l'effondrement n'est pas encore connue, mais la zone n'est pas constructible, rappelle le maire, le colonel Bosco Mbouy.
Ils n'avaient pas d'autorisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire. Parce que nous sommes dans le marécager. Et en plus de ça, son ingénieur n'a pas bien fait son calcul. Maintenant, voilà maintenant la conséquence.
Des ouvriers, des écoliers étaient sur le chantier ce jeudi au moment du drame. Une soixantaine de personnes, estiment les autorités. Plus d'une dizaine ont déjà été secourues, mais difficile de savoir combien reste encore dans les décombres. Coralie Pierret, Bounia RFI.
On vous racontait hier sur RFI l'histoire de Boniface Mwangi, ce défenseur kényan des droits de l'homme, enlevé lundi en Tanzanie, retrouvé libre finalement dans son pays. Eh bien, à ses côtés, en début de semaine, au moment de l'enlèvement, il y avait également la militante et avocate ougandaise Agather Atuhaire. Tous deux étaient venus à Dar es Salaam pour assister au procès de l'opposant tanzanien Tundu Lissu. Et elle aussi a finalement été retrouvée libre près de la frontière où les services tanzaniens l'auraient abandonnée, selon sa famille. À Nairobi, récit de Gaël Lalex.
C'est vers le poste frontière de Mukula qu'Agather Atuhaire a été abandonnée par ses ravisseurs dans la nuit de jeudi à vendredi. D'après Godwin Toko, membre de l'organisation de défense des droits de l'homme Agora, elle est rentrée hier à Kampala où elle a pu retrouver son fils. Les proches d'Agather Atuhaire restent discrets sur ses conditions de détention, mais confirment qu'elle a subi de graves tortures. La militante ougandaise avait été arrêtée avec Boniface Mwangi, défenseur kényan des droits de l'homme, libéré un jour plus tôt. Hier, sur les réseaux sociaux, il a donné plus de détails sur les tortures subies. Les yeux bandés, Agather Atuhaire et lui ont été battus, parfois dénudés. À chaque coup reçu, il devait remercier la présidente tanzanienne Samia Suluhu. Ces enlèvements ont provoqué une véritable vague d'indignation en Afrique de l'Est. Hier, l'organisation de la société civile Chapter 4 Ouganda a annoncé son intention de soutenir tous les efforts pour obtenir justice. Le réseau panafricain de solidarité des dirigeants progressistes, qui regroupe une cinquantaine d'organisations, a écrit à l'Union africaine et aux communautés d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe afin de demander une enquête. Gaël Alex Nairo, RFI.
Sur la scène politique gabonaise, démission en cascade au sein du PDG, le parti fondé par Omar Bongo, incarné ensuite par son fils Ali Bongo, chassé du pouvoir par un coup d'État en août 2023. Et après la démission collective courant mai de la majorité des cadres de la formation dans la province du Wolentem, dans le nord du pays, eh bien, hier, c'était au tour de l'ancien Premier ministre Paul Biyogemba de claquer la porte, alors que c'est lui qui a dirigé le parti durant la transition. Ces démissions interviennent dans la perspective des élections législatives et des élections locales qui sont prévues en septembre. Au Cameroun, Cabral Libi, désigné candidat de son parti, le PCRN, en vue de l'élection d'octobre prochain. Il a été choisi par le bureau politique de sa formation, annonce réalisée hier au cours du congrès qui se tenait près de Yaoundé, en présence de plusieurs figures de l'opposition. Visé par la justice aux États-Unis pour ses activités au Cameroun, justement, le Camerounais Eric Tano Tato s'est rendu aux autorités américaines après avoir été mis en accusation par un jury fédéral de Baltimore dans l'état du Maryland où il vit. Il est accusé, Eric Tano Tato, de complot en vue de fournir un soutien matériel aux séparatistes anglophones du Cameroun à la fin des années 2010, début des années 2020. Accusé également d'avoir proféré des menaces d'attaque et d'enlèvement contre des civils à Mélitulé.
Eric Tato se fait connaître sur les réseaux quand la crise prend une tournure violente et que des groupes armés prennent les armes pour revendiquer l'indépendance du Cameroun anglophone qu'ils appellent Ambazonie. Colbert Quain, journaliste à Bamenda, se souvient.
Il est entré en scène en 2017. Il était l'un des leaders en exil, incitant et encourageant la jeunesse à agir. Il coordonnait des attaques, même depuis l'étranger.
Eric Tato relaie aussi les appels aux journées villes mortes et au boycott des écoles gouvernementales, se fait connaître sous le pseudo Gary Master, nom de code choisi pour désigner des mutilations, et collecte des fonds pour financer des attaques. Mais depuis, sur le terrain, la donne a changé, l'influence des leaders en exil n'est plus la même, les groupes armés se financent par l'extorsion et les kidnappings contre rançon. Aré Elvis Tui, analyste senior pour International Crisis Group.
Cela semble être une étape importante, mais je crains qu'elle n'arrive un peu trop tard. Depuis deux ans, on n'entend plus beaucoup parler d'Eric Tato concernant les combats sur le terrain, mais même si cela est tardif et que les groupes armés se sont en quelque sorte restructurés différemment, il est toujours très important que les gens soient conscients qu'il faudra, quoi qu'il arrive, rendre des comptes maintenant ou à l'avenir.
Aux États-Unis, s'il est reconnu coupable, Eric Tato encourt 15 ans de prison pour le soutien matériel aux groupes armés, plus 5 ans de prison pour chaque communication menaçante pour laquelle il sera jugé.
Les explications d'Amélie Tulé. L'heure À la fête hier à Maurice, dans la capitale Port-Louis, le gouvernement mauricien avait organisé une cérémonie officielle pour marquer la rétrocession des Chagos à Maurice au lendemain d'un accord consenti par le Royaume-Uni. Les Chagossiens et des responsables politiques s'étaient rassemblés pour marquer cet événement. Rappelons que le premier ministre mauricien Navin Ramgoolam avait salué une grande victoire qui marquait ainsi la fin du processus de décolonisation. Une mission ô combien importante pour notre planète, préserver les mers et les océans. Une mission à laquelle s'attelle le navire laboratoire plastique Odyssée, qui, comme son nom l'indique, est dédié, lui, à la lutte contre la pollution plastique, recyclage et prévention. Un navire qui vient justement de changer d'équipage, en effet. Au large de l'île Mahé, hier, aux Seychelles, après 2 ans et demi de navigation, sont montés à bord des chercheurs mauriciens, séchellois, malgaches et français. Une passation de relais qu'a suivi pour nous Sarah Tetto.
C'est à la corne de brume que le navire salue les nouveaux arrivants et remercie ceux qui le quittent. Après un mois de navigation dans les eaux de l'océan Indien occidental, l'équipe à bord effectue sa relève. Franck Legras, le commandant sortant du navire, fait la passation avec son successeur, Johan Long.
Les conseils, c'est de valider auprès des autorités portuaires pour pouvoir mettre le Zodiac à l'eau et pour aller faire les prélèvements. L'île Sainte-Anne, c'est une île privée, tu n'as pas accès à l'île, inland. Par contre, tu as accès à la plage, ce sera le message à passer aux scientifiques qui rentrent sur la plage.
Originellement, le navire plastique Odyssée héberge une micro-usine de recyclage de plastique. Pour cette toute première mission scientifique, un laboratoire a été spécialement installé à bord pour permettre de mener les différentes études.
On est donc parti pour une petite semaine de campagne océanographique aux Seychelles.
Thierry Bouvier, le chef de la mission scientifique, rappelle les objectifs de chacun.
On va pouvoir déployer toutes nos opérations, donc des opérations de dégradabilité des plastiques, on va récupérer des macroplastiques et des microplastiques dans les lagons et à l'extérieur du lagon, et puis on va aussi récolter du plancton pour regarder un petit peu ce que ce plancton consomme en termes de microplastiques.
Des études inédites qui devraient permettre de décrire les trajectoires de dérive des déchets plastiques dans l'océan Indien, d'estimer leur quantité, ainsi que les risques associés sur la santé humaine. Sarah Tetto, La Digue, RFI.
RFI, 6h, tout juste 42 ici à Paris, 4h42 en temps universel.
Pour réécouter ce journal, rendez-vous sur RFI.fr. Afrique Matin sur RFI. Sébastien Duhamel.
Bienvenue si vous nous rejoignez, restez avec nous bien sûr. RFI Matin débutera avec Marion Cazanov dans un peu plus de 13 minutes. Mais avant cela, quel cinéma pour demain? Avant la clôture du Festival de Cannes ce soir, notre reportage au Pavillon Afrique sur place à la rencontre de jeunes créateurs africains et des défis qui les attendent, technologiques notamment, vous l'entendrez. Candidate pour la présidence de la Banque Africaine de Développement, la Sud-Africaine Bajolile Swazi Tshabalala sera notre invitée tout à l'heure. La chronique média, comme tous les week-ends sur RFI, consacrée cette fois à l'onde de choc médiatique enregistrée après l'assassinat de 2 fonctionnaires israéliens à Washington. Mais d'abord, l'heure de l'actu sport sur la radio du Monde. Et pour ça, c'est Victor Missistrano qui nous a rejoint. Bonjour Victor.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous.
Du foot à la une ce matin, on commence en Italie. Il aura fallu attendre la dernière journée pour connaître le vainqueur du championnat.
Naples récupère le Scudetto après 1987, 1990 et 2023. Le club s'offre un quatrième sacre. Mmh. C'est le deuxième donc pour le milieu international camerounais, Franck Zambo Anguissa. Et ça ne s'est pas joué à grand chose. Seulement 1 point d'avance à l'arrivée sur l'Inter Milan tenant du titre. Le Napoli est parvenu à battre Cagliari 2-0 hier grâce à des buts de Scott McTominay et Romelu Lukaku. La victoire de l'Inter à Côme sur le même score n'aura donc pas suffi. Les Milanais doivent digérer cette déception et se projeter vers la finale de la Ligue des Champions samedi prochain contre le Paris Saint-Germain.
Ah oui, mais avant ça, Victor, le PSG lui va disputer une autre finale. Ce sera ce soir, c'est la finale de la Coupe de France.
Ouais, une petite répétition donc contre Reims au Stade de France. Les Parisiens qui sont évidemment les grands favoris face à une équipe à la lutte pour le maintien en Ligue 1 dans un barrage aller-retour. Tour contre Metz, 1-1 pour l'instant après la première manche. Mais ce soir, il faut donc se focaliser sur cette finale de Coupe de France, selon Yevan Diouf, le gardien sénégalais de Reims, qui sait que c'est un moment précieux dans une carrière.
C'est quelque chose qui arrive très rarement. Donc même si ça arrive entre 2 confrontations importantes, on se doit aussi de profiter du moment, parce que c'est quelque chose de rares dont on a travaillé pendant pratiquement toute la saison pour arriver à ce stade-là. On n'a pas eu que des matchs faciles. Donc voilà, profiter du moment. Et puis on est des compétiteurs, donc on a envie de gagner malgré tout. Voilà, on va essayer de faire de notre mieux, d'être ensemble pendant les 90 ou 120 minutes. Et puis après ce match-là, on se reconcentrera sur Metz. Mais pour l'instant, on est sur ce match-là.
Yevan Diouf au micro de Sofiane Amazian avant PSG Reims. Coup d'envoi de cette finale de la Coupe de France à 19h, temps universel.
Le rendez-vous est pris. Et il y a bien sûr une autre finale aujourd'hui, Victor. Et oui, celle de la Ligue des Champions africaines.
Début de la double confrontation entre les Mamelodi Sundowns et le FC Pyramids du Caire. Après avoir éliminé un autre club égyptien en demi-finale, Al Ahly, double tenant du titre, les Sud-Africains espèrent prendre de l'avance cet après-midi dans le match aller à Pretoria. Et oui, puisqu'on dispute cette finale en match aller-retour. L'entraîneur des Sundowns espère que son équipe va s'adapter à la formation égyptienne, novice à ce stade, mais dont Miguel Cardoso se méfie.
Le match sera différent de ce que nous avons joué jusqu'à présent. Cette équipe est très intense. On aura moins de temps avec le ballon et il faudra prendre des décisions plus rapides, réagir plus vite, repousser les limites. Et ça, on doit y être préparé dès la première minute parce que cette intensité peut parfois être un choc lorsque vous entrez sur le terrain. Mais le niveau d'expérience de nos joueurs doit nous permettre de répondre comme il faut et de faire face aux défis parce qu'il y en aura beaucoup. Je pense par exemple qu'il y aura des phases de jeu très différentes les unes des autres. Il faudra savoir comment s'y adapter, comment les jouer. C'est la clé pour obtenir un résultat qui pourrait nous donner un petit matelas, un avantage en vue du match retour.
Et des propos recueillis par Valentin Hugues, Mamelodi Pyramids, coup d'envoi de cette finale aller, 13h temps universel.
Et puis du basket, Victor, avec les finales de conférence de la NBA qui se poursuivent.
Et à l'Est, les Indiana Pacers ont déjà fait la moitié du chemin contre les New York Knicks. 2-0 après leur victoire cette nuit en déplacement 114-109. Immense le Camerounais Pascal Siakam qui a terminé meilleur marqueur de la rencontre. 39 points pour le natif de Douala, c'est son record en carrière en play-off. Eh bien, rendez-vous Sébastien demain soir à Indiana pour le match 3 de cette finale de Conférence Est.
Eh bien, le rendez-vous est pris également. Merci beaucoup Victor Missistrano, on vous retrouve tout à l'heure. 4h46 en temps universel. En attendant, on jette un coup d'œil sur les titres de ce samedi 24 mai 2025 et ces mots du chef de l'ONU Antonio Guterres à propos de l'assistance humanitaire qui entre à Gaza. Une pincée d'aide alors qu'un déluge est nécessaire. 15 camions du programme alimentaire mondial ont d'ailleurs été pillés dans la nuit de jeudi à vendredi dans la bande de Gaza alors qu'ils allaient approvisionner des boulangeries dans le territoire palestinien. Hier, 71 personnes ont par ailleurs péri sous les bombes israéliennes selon la défense civile de Gaza. Il ne cherche pas d'accord commercial avec l'Union européenne. Donald Trump l'assure et il menace d'assommer l'UE avec des droits de douane de 50% dès le 1er juin. Nouvelle annonce qui a secoué les marchés boursiers européens hier. Qui décrochera la Palme d'Or ? Juliette Binoche et son jury dévoilent ce soir le palmarès du 78e Festival de Cannes. Et puis la mort de Sebastião Salgado, connu pour ses grandes images en noir et blanc de peuples défavorisés de la forêt amazonienne. Le photographe franco-brésilien est mort hier à Paris. Il avait 81 ans. Et l'actualité qui est justement marquée, je viens de le dire, par la cérémonie de clôture qui est attendue ce soir à Cannes pour refermer la 78e édition du festival de cinéma mythique. Et c'est également, eh bien, l'heure du bilan pour nous sur RFI. La Radio du Monde était très largement mobilisée pour vous faire vivre cet événement comme tous les ans. Et on a évidemment suivi ce qu'il se passait au pavillon Afrique qui avait mis cette année l'accent sur l'avenir du cinéma africain, développement technologique, intelligence artificielle, au cœur de débats sur place en présence de jeunes créateurs du continent. C'est notre reportage du jour, il est signé par notre envoyé spécial Ouda Ibrahim.
Une idée importante est perpétuellement revenue dans le débat, faire profiter les créateurs du continent de l'expérience de la diaspora, créer des ponts et transmettre les connaissances acquises et le savoir-faire, surtout dans le domaine des nouvelles technologies. Les organisateurs visent à unir les énergies pour trouver des solutions à une industrie en manque d'infrastructures. Pour la participante au débat, Lamia Belkaad Giga, universitaire tunisienne et enseignante de cinéma, il faut également plus d'échanges entre les pays africains.
Aujourd'hui, il y a énormément de challenges, énormément de choses à mettre en place par rapport aux films d'animation et les effets spéciaux, tout ce qui est de créer soit des collectifs, et surtout qu'il n'y a pas la formation dans la plupart des pays. Il y a un déséquilibre entre les pays africains, donc ça serait bien de créer un écosystème africain-africain, c'est-à-dire le nord de l'Afrique, le sud de l'Afrique, le centre de l'Afrique, les pays anglophones, francophones. Je pense qu'il y a pas mal aujourd'hui de films qui se font entre les pays. Il se trouve que c'est une bonne chose.
Évoquons le présent et l'avenir du cinéma africain face à l'intelligence artificielle, Karine Barclay, la fondatrice du pavillon Afrique, met en garde « Le continent ne doit pas arriver après la bataille ».
Nous sommes tous au même niveau en ce qui concerne l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et l'Afrique a vraiment toutes ses chances d'être au niveau mondial, ce qui se fait de mieux. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne soit pas parmi les premiers. Il y a déjà des gens qui font vraiment du très bon travail dans l'animation, dans le cinéma de manière générale, qui sont d'origine africaine.
Selon Karine Barclay, les différentes compétences forment un écosystème, mais pour bâtir une industrie durable, il faut croiser les compétences et avoir surtout le soutien politique.
Il faut juste qu'il y ait la partie un peu légale. Le gouvernement devrait faire leur travail dans ce sens-là pour protéger les droits des auteurs. On ne peut pas embrasser, je dirais, l'intelligence artificielle dans des pays sans mettre en place des conditions de protection de la propriété intellectuelle, éducation sur ce qu'est l'intelligence artificielle.
Comprendre, maîtriser, adapter, des mots qui sont souvent revenus dans les débats face aux nouveaux défis qui transforment le métier et même l'imaginaire des créateurs. Houda Ibrahim, Cannes, RFI.
Notre reportage au pavillon Afrique à Cannes, à retrouver sur Internet bien sûr. Elle fait partie des 5 candidats pour la présidence de la Banque africaine de développement et elle est notre invitée ce matin sur RFI, la sud-africaine Bajabulile Swazi Tshabalala, ancienne vice-présidente de la BAD en charge des finances justement. Elle souhaite succéder aujourd'hui au Nigérian Akinwumi Adesina, verdict attendu le 29 mai, mais avant cela, Bajabulile Swazi Tshabalala nous présente son programme au micro de Claire Fage.
Bajabulile Swazi Tshabalala,
bonjour.
Good day to you.
Bonjour.
You have spent Vous avez passé une grande partie de votre carrière dans le secteur privé. Est-ce un avantage par rapport aux autres candidats à la présidence de la Banque africaine de développement?
African Development Bank's presidency.
Oui, j'ai passé une bonne partie de ma carrière dans le secteur privé, même si j'ai également travaillé dans des entreprises publiques en Afrique du Sud, dans une société de logistique, et que j'ai passé 6 ans à la Banque africaine de développement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un avantage parce que nous devons repenser le financement du développement en Afrique et nous assurer que nous pouvons faire appel au secteur privé. Je pense que cela me donne un avantage.
En tant
qu'ancienne vice-présidente, présidente chargée des finances de la BAD, votre action sera-t-elle en phase avec les deux mandats d'Akinwumi Adesina?
En fait, j'ai participé à la rédaction de la dernière stratégie de la banque et ma vision s'appuie vraiment sur cette stratégie décennale. J'ai donc toujours affirmé que l'Afrique n'avait pas besoin de nouveaux plans, mais de concrétiser ces plans. Et c'est vraiment sur cela que se concentre ma vision que j'appelle Lift Africa.
À la fin de son premier mandat, M. Adesina a été critiqué pour sa gouvernance. La banque doit-elle encore progresser sur ce point?
Toutes les organisations doivent examiner leur gouvernance pour voir où elles peuvent l'améliorer. C'est particulièrement important pour attirer le secteur privé et s'assurer qu'il soit un partenaire de long terme de la BAD pour financer le développement de l'Afrique.
Dans votre programme, vous insistez sur le manque d'infrastructures du continent. Est-ce actuellement la plus grande faiblesse des économies africaines?
Les emplois ne sont pas créés par les banques de développement, mais par le secteur privé. Ce dernier a besoin d'une électricité fiable. Pour accéder au marché, il a besoin de routes, de voies ferrées, de ports et de connexions numériques. Ce sont les défis de l'Afrique et c'est pourquoi les infrastructures sont le fondement d'une accélération de son développement.
Avez-vous des projets prioritaires à l'esprit?
Oui, je pense évidemment que l'accès à l'électricité est extrêmement important. Je ferai en sorte d'accélérer les choses. Il y a aussi de grands projets sur la table dont il faut finaliser le financement. Par exemple, le corridor minéralier de Lobito reliant la Zambie, la RDC et l'Angola. Le corridor de Nacala en Afrique australe. Il y a aussi la route Lagos-Abidjan qui est un projet important.
L'un des défis de la BAD est sa capacité à prêter plus d'argent. Vous avez contribué à augmenter son capital en émettant de la dette assimilée à du capital. Cette opération peut-elle être répétée ou existe-t-il d'autres solutions?
Là encore, c'est un exemple de la contribution du secteur privé aux banques de développement. J'ai introduit cet instrument à la BAD pour nous permettre de lever des capitaux à long terme, ce qui est indispensable au développement. Il s'agissait de lever des capitaux à long terme auprès d'investisseurs institutionnels du monde entier, plutôt que de solliciter, comme d'habitude, nos actionnaires. Donc oui, je pense que nous pouvons émettre plus de capital hybride. Il existe également d'autres instruments que nous pouvons déployer, y compris utiliser le capital de la banque pour dérisquer les investissements du secteur privé.
La décision des États-Unis de ne pas contribuer au Fonds africain de développement dédié aux États les plus fragiles est-elle une source d'inquiétude pour la BAD?
Oui, bien sûr, parce que ce type de subvention reste crucial. La Banque africaine de développement continuera donc à plaider en faveur de ces financements, tout en travaillant par exemple avec les fondations philanthropiques. Bill Gates a annoncé qu'il déploierait 200 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années pour aider les États fragiles du continent. Nous devons aussi examiner les autres régions en mesure de contribuer davantage pour pallier ce manque et aider en particulier les pays fragiles.
Mrs. Chabalala, thank you.
Thank you very much and bonne journée.
Entretien de Claire Fage avec Bajaboulilé Swazi Chabalala. Les 5 candidats pour la présidence de la BAD et leur programme à retrouver sur notre site internet. Allez, la chronique média d'Amaury de Rochegonde qui revient cette semaine sur l'écho médiatique qui a été donné à l'assassinat de 2 fonctionnaires de l'ambassade israélienne à Washington, Amaury.
Oui, ils étaient jeunes, pleins d'avenir, et ils ont été assassinés aux abords de l'American Jewish Committee à Washington par un Américain se réclamant de la Palestine libre. De ces 2 employés de l'ambassade israélienne, Sarah Milgrim et Yaron Lischinski, on sait déjà beaucoup de choses, par exemple que lui était né allemand, d'un père juif et d'une mère catholique, qu'il se disait chrétien évangélique, qu'une bague avait été achetée et qu'il avait prévu de demander la main de sa petite amie dans les prochains jours à Jérusalem. Après l'incarnation, la récupération politique a suivi. Le ministre des Affaires étrangères israélien, Gideon Sar, a fait de Yaron un combattant sur le front diplomatique, tombé sur le champ de bataille et a accusé les pays européens et les leaders du monde d'inciter à la haine antisémite. Une accusation destinée à répliquer à la volonté de la France, du Royaume-Uni et du Canada de reconnaître l'État palestinien et peut-être pour l'UE de réviser l'accord de coopération avec Israël.
Et cela contraste selon vous, Amaury, avec les morts palestiniens anonymes victimes des bombardements à Gaza.
Parmi les 53 000 personnes tuées à Gaza par l'armée israélienne, dont une majorité de femmes et d'enfants, parmi les affamés, les déplacés, les 2 millions de personnes en danger de mort imminente selon l'OMS, quelles histoires personnelles sont arrivées jusqu'à nous? Peut-être quelques-unes parmi les 200 journalistes morts, dont 43 dans l'exercice de leur métier, ceux qui étaient en lien avec des médias occidentaux. Peut-être l'histoire de cette photographe, Fatima Hassouna, au sourire rayonnant et à laquelle la réalisatrice iranienne Sepideh Farsi a consacré un documentaire présenté à Cannes. Mais dans l'ensemble, ces morts n'ont pas de nom, pas de visage, ils sont invisibles, tout simplement parce que l'armée israélienne continue son blocus de l'information, empêchant les journalistes étrangers de témoigner à Gaza.
Et pour vous, Amaury, ce silence contraste également avec la propagande des médias israéliens.
Oh, pas tous, pas le journal Haaretz ou le média public Cannes qui sont dans le viseur de Netanyahou. Mais Le Monde consacrait jeudi un article à la banalisation des discours aux accents génocidaires au sein du gouvernement et de la droite israélienne sur les réseaux sociaux et sur les plateaux de télévision, en particulier sur la chaîne 14. Haaretz a résumé les choses ainsi. À la télévision israélienne, affamer les bébés de Gaza n'est pas un problème aussi longtemps qu'il n'y a pas de photos d'eux. L'invisibilisation est aussi une arme de guerre.
La chronique média, Amaury de Rochegonde, tous les samedis sur RFI. Allez, avant de retrouver Marion Kazanov dans une minute pour RFI Matin, on remercie Laurent Hérault qui est à la réalisation, Pierre Pinto à la rédaction en chef, et on passe ce matin un salut particulier à Isharam Kéré qui nous écoute depuis Bukavu en RDC. Il nous a écrit sur l'adresse africematin@rfi.fr. On l'en remercie. Excellente matinée à tous.
Carrefour du Maghreb.
La poésie pour raconter l'intime et la guerre.
Juliette Rangeval.
Avec la poétesse marocaine Rim Battal et l'écrivain algérien Mohamed Kassimi, exploration des écrits d'autrices palestiniennes qui disent à travers leur corps les ravages du conflit en cours et le poids du patriarcat.
Carrefour du Maghreb avec Juliette Rangeval, tout à l'heure à 11h10 TU sur RFI. Émission spéciale, clôture du Festival de Cannes 2025. Sophie Torlotin, Isabelle Chenu.
Quel film remportera la Palme d'Or ? Viendra-t-il d'Iran, du Brésil, d'Espagne ou de Norvège ? 22 films à juger et à départager. Retrouvez-nous pour commenter en direct et à chaud le palmarès du 78e Festival de Cannes.
RFI vous fait vivre le bilan de cette 78e édition ce samedi à partir de 18h TU.